Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله.
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux, et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur, le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce mardi soir, 3 novembre 2020. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Palestine deviendra Palestine, Israël disparaîtra, a ponctué le leader de la révolution islamique lors de son discours à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du grand prophète de l'islam. Les manœuvres aériennes de l'Iran ont commencé dans la zone générale d'Ispahan et présidentielle en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, réélu, avait 94,27% des voix au premier tour. C'était le titre. En voici le journal. Au moment où la France d'Emmanuel Macron s'est transformée en une tribune pour offenser les valeurs les plus sacrées de l'islam et de son grand prophète, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, a évoqué la naissance d'une personnalité dont la prophétie constitue de loin l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Or, cette naissance bienheureuse coïncide cette année avec un autre anniversaire. Le 13 Aban, jour où les étudiants iraniens ont pris l'ambassade US à Téhéran, et ce peu de temps après la victoire de la révolution islamique. L'humanité souffre aujourd'hui plus qu'à tout autre moment de l'histoire, guerre, injustice, matérialisme. La science est transformée en une arme pour réprimer les nations, ce qui n'est pas nouveau. La différence est qu'aujourd'hui, les puissances tyranniques en usent et abusent pour s'imposer et dominer. Le pharaon ne tyrannisait que dans les limites de l'ancienne Égypte, mais les États-Unis, symbole de la tyrannie pharaonique de notre époque, agissent, eux, largement au-delà des frontières de la seule Amérique, a fait savoir le leader de la révolution islamique, et de renchérir. Ils créent des bases, ils déclenchent des guerres, ils occupent des pays entiers, en puissance hégémonique absolue qu'ils sont. Or, l'ennemi de l'islam, son principal ennemi, est cette Amérique hégémoniste, cette arrogance mondiale, ce sionisme qui se battent contre l'islam avec tout ce qu'ils ont à leur disposition et sur tous les fronts. Le dernier épisode de cette guerre est ce qui s'est produit la semaine dernière en France. Cette affaire n'est pas seulement celle d'un caricaturiste qui commet un outrage et offense le prophète de l'islam. C'est bien plus. Il existe des mains qui agissent en coulisses, d'où le soutien qu'apporte à ce caricaturiste tout un État, son président et ses dirigeants. L'enjeu dans cette affaire est la politique d'un gouvernement français qui s'aligne sur cet acte offensant et qui a derrière lui toute la classe politique. L'Ayatollah Khamenei s'est ensuite félicité de l'union sacrée que l'affaire des caricatures a créée au sein du monde de l'islam et souligné « Aujourd'hui, plus que jamais, se manifeste en toute sa grandeur l'importance de l'initiative de l'imam Khomeini de baptiser les deux dates de l'anniversaire du prophète de l'islam, selon la version sunnite et chiite, semaine de l'unité. les événements qui se succèdent de nos jours, les divergences produites au sein du monde de l'islam prouvent à quel point cette unité intermusulmane est vitale. C'est un précieux paramètre qui, s'il existait profondément et de façon impérissable, aucun des fléaux auxquels nous nous confrontons aujourd'hui n'aurait existé. Le commandant de l'armée de l'air iranienne, le général de brigade Aziz Nasirzadeh, a annoncé lundi 2 novembre le début des manœuvres aériennes dans la zone générale d'Isfahan. Des dizaines d'avions de combat, de bombardiers, des avions de transport lourds et semi-lourds, d'avions de ravitaillement, d'interception et de reconnaissance, de patrouilles aériennes et de drones effectuent la phase principale et la phase opérationnelle des exercices pendant 2 jours, a-t-il affirmé. Le but de la conduite de ces manœuvres est d'améliorer les capacités de combat et de s'entraîner à mettre en œuvre des plans opérationnels pour obtenir un modèle adapté pour la bataille en conditions réelles, a déclaré le commandant. Le général Nasirzadeh a déclaré que les exercices durent 2 jours et s'effectuent dans cette base aérienne. Le général Nasirzadeh a déclaré que différents types d'avions bombardiers lourds, Sukhoi 24, F-4, F-5, F-7, F-14, MiG-29, Saare, Boeing 707 et 747, avions de ravitaillement C-130 et avions de logistique y prennent part. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi divers types de drones, dont Karar, Ababil, Arash et Kaman 99, équipés de missiles à haute précision, de bombes intelligentes à longue portée et de brouilleurs équipés de radars qui sont impliqués dans les manœuvres. Il s'agit de bombes intelligentes, lourdes et semi-lourdes, divers types de missiles laser, téléguidés, thermiques et équipés de radars, ainsi que de différentes roquettes et de bombes produites par des experts iraniens. Israël prétend avoir abattu un drone envoyé par la résistance palestinienne vers la colonie d'Eshkol. La chaîne d'information Al-Arabiya a prétendu qu'un drone envoyé depuis la bande de Gaza vers les colonies sionistes aurait été abattu par l'armée israélienne. Un porte-parole de l'armée israélienne a prétendu que le drone s'est écrasé dans la région d'Eshkol, dans le sud d'Israël, et que des avions de combat avaient été immédiatement dépêchés sur place dès que l'appareil a tenté de pénétrer l'espace aérien israélien. Après avoir réalisé des recherches au sol dans la zone concernée, nous avons découvert un drone, a indiqué un porte-parole de l'armée israélienne. Nous vérifions qu'il s'agit bien du drone suspecté de s'être infiltré en territoire israélien, a-t-il précisé. Cela intervient alors qu'à l'occasion du 103e anniversaire de la signature de la déclaration Balfour, les groupes de résistance palestiniens ont exprimé leur opposition à l'abandon des droits du peuple palestinien, bien que certains régimes arabes aient opté pour la normalisation avec l'entité sioniste. L'anniversaire de la signature de la déclaration Balfour est le jour où le secrétaire britannique aux affaires étrangères, Arthur James Balfour, a fait la promesse d'établir en Palestine un projet colonial. Le foyer national pour le peuple juif. Cette déclaration est considérée comme une des premières étapes dans la création du régime d'Israël. Le bilan du puissant tremblement de guerre qui a secoué vendredi la province turque d'Izmir s'est alourdi à 42 morts, a annoncé dimanche matin l'autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences. Un séisme de magnitude 6,6 sur l'échelle de Richter s'est produit vendredi en mer Égée entre la côte turque et l'île grecque de Samos, faisant au moins 885 blessés, selon une annonce publiée samedi par le ministre turc de la Santé. Des opérations de secours sont en cours pour venir en aide aux personnes encore piégées dans les ruines. Un total de 5000 secouristes et 20 chiens de sauvetage ont été déployés à travers la province d'Izmir, selon un communiqué publié samedi par l'autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences. Et ouvrons la page de l'actualité africaine. En Côte d'Ivoire, le président sortant Alassane Ouattara a été élu au premier tour de l'élection présidentielle avec 94,27% des voix, a annoncé mardi la commission électorale indépendante. Le président sortant, candidat du rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, a obtenu 3 031 483 voix sur 3 215 909 suffrages exprimés, soit 94,27%, et a donc été déclaré élu président de la République dès le premier tour samedi. Le scrutin a été émaillé d'incidents à Abidjan et dans plusieurs régions du pays suite à l'appel à la désobéissance civile et au boycott des urnes lancé par les candidats de l'opposition Henri Konan Bédié et Pascal Affi N'Guessan. Les résultats globaux provisoires doivent être confirmés par le Conseil constitutionnel. Alassane Ouattara a été élu pour la première fois en 2010 et réélu en 2015. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Ce qu'exige l'État profond sioniste à Emmanuel Macron, alias Jupiter. La France n'ira pas changer sa lecture de la liberté d'expression, a dit l'un des proches du président français Emmanuel Macron, croyant sans doute que ce coup de téléphone que l'émirati Garkash, ministre conseiller de Ben Zayed, venait de donner à Jupiter, suffirait dans la foulée à inverser le mouvement des capitaux arabes et musulmans qui commencent à quitter la France ou encore à ramener dans les supermarchés les produits français boycottés. Mais Macron se trompe s'il croit que sa formule anti-sionisme égale antisémitisme, anti-islam égale liberté d'expression va tirer cette fois le pays du pétrin dans lequel l'axe USA-Israël l'a précipité. Au fait, le coup de fil de Ben Zayed à Macron, donné sans doute sur l'ordre de Tel Aviv, visait à faire stopper tout possible retour à la raison. Déjà, le fait d'apparaître à l'antenne d'Al Jazeera, chaîne TV frériste et à l'origine des épisodes les plus tragiques de la guerre en Syrie, invite à croire que tout ce que cherche le président Macron est de tromper la base musulmane. À lire la presse israélienne qui était juste avant les pré-excuses de Macron exprimées sur Al Jazeera aux anges, avant de se mettre à s'inquiéter que la tendance inverse, il est grand temps que la République en finisse avec les musulmans. Voici ce que l'éditorialiste d'Israël Hayom, Freddy Eitan, écrit à ce sujet. Après les attentats contre les Juifs de France, suite à la décapitation d'un professeur d'histoire, l'attentat contre des catholiques à l'église Notre-Dame de Nice et 270 morts assassinés par des islamistes, la France des Lumières devrait prendre conscience du fléau et se réveiller de son aveuglement, de sa bonté extrême et sa tolérance exagérée. L'incitation à la haine, la volonté de transformer l'État français en une machine à tuer et à réprimer, à l'image d'Israël, terrifie. Lisons la suite. L'État urgence attentat est bien justifié, mais l'application des lois doit être inversée. Désormais, c'est bien les lois de la République qui dicteront l'ordre du jour et non les lois de la jungle. Il faudrait que les terroristes et leurs commanditaires deviennent des bêtes traquées, peureuses et affolées. Maîtriser la situation et appliquer des lois draconiennes contre chaque islamiste, mettre sans pitié les hors-la-loi derrière les barreaux, les enfermer dans des cages de fer et de béton, agir en position de force et non réagir après coup. La fabrique de la guerre civile, voici ce qu'exige désormais l'axe USA-Israël à Macron, un banquier érigé au rang de président d'une France qui, pour avoir été bon an mal an la fille de l'Église, a été depuis toujours de se démarquer de la ligne anglo-saxonne et de prôner plutôt le dialogue entre la guerre avec l'islam. La tentative de faire de la France une seconde Israël. Ce n'est plus une dérive journalistique, mais d'une réelle incitation à la guerre civile, de palestinisation des musulmans de France, d'israélisation de l'État français qu'il s'agit. Emmanuel Macron a commis la grave erreur de s'en prendre à l'islam et de remettre en cause la paix et la quiétude sociale, au mieux pour quelques voix d'extrême, de plus, au pire, pour plaire aux riches lobbies sionistes. Mais ce serait plus qu'une grave erreur que de liquider l'État français dans le sang de ses fils. Andalan, en raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.
Au moment où la France d'Emmanuel Macron s'est transformée en une tribune pour offenser les valeurs les plus sacrées de l'islam et de son grand prophète, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a évoqué ce mardi, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du grand prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, ainsi que celle du sixième imam chiite, le vénéré Jafar Sadr, béni soit-il. La naissance d'une personnalité dont la prophétie constitue de loin l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'humanité. Or, cette naissance bienheureuse coïncide cette année avec un autre anniversaire, le 13 Aban du calendrier iranien, jour où les étudiants iraniens ont pris l'ambassade US à Téhéran, et ce, peu de temps après la victoire de la révolution islamique. L'humanité souffre aujourd'hui plus qu'à tout autre moment de l'histoire. Guerre, injustice, matérialisme. La science est transformée en une arme pour réprimer les nations, ce qui n'est pas nouveau. La différence est qu'aujourd'hui, les puissances tyranniques en usent et abusent pour s'imposer et dominer. Le pharaon ne tyrannisait que dans les limites de l'ancienne Égypte, mais les États-Unis, symbole de la tyrannie pharaonique de notre époque, agissent, eux, largement au-delà des frontières de la seule Amérique, a fait savoir le leader de la révolution islamique. Et de renchérir, ils créent des bases, ils déclenchent des guerres, ils occupent des pays entiers en puissance hégémonique absolue qu'ils sont. Or, l'ennemi de l'islam, son principal ennemi, est cette Amérique hégémoniste. Cette arrogance mondiale, ce sionisme qui se bat contre l'islam avec tout ce qu'ils ont à leur disposition et sur tous les fronts. Le dernier épisode de cette guerre est ce qui s'est produit la semaine dernière en France. Cette affaire n'est pas seulement celle d'un caricaturiste qui commet un outrage et offense le prophète de l'islam. C'est bien plus. Il existe des mains qui agissent en coulisses, d'où le soutien qu'apporte à ce caricaturiste tout un État, son président et ses dirigeants. L'enjeu dans cette affaire est la politique d'un gouvernement français qui s'aligne sur cet acte offensant et qui a derrière lui toute la classe politique. Plus loin dans ses propos, le leader a évoqué l'autre bout de l'échelle, à savoir l'humain islamique, qui si largement réagit à cette offense. La colère et la protestation généralisée de l'humain islamique est la preuve de sa vivacité et son dynamisme. Même si certains de ses dirigeants ont bien fait preuve de leur mesquinerie, l'humain islamique a défendu dans sa majorité son identité, ce qui nous pousse à en tirer leçon. Le gouvernement français a tenté de faire un lien entre cette affaire d'une part et la liberté d'expression et le respect des droits de l'homme de l'autre. C'est là la politique qui coiffe de sa protection les actions de ceux des terroristes qui figurent au nombre des plus sanguinaires au monde. Ceux-là même qui ont tué en martyr notre ex-président, assassiné notre ancien chef de pouvoir judiciaire, notre ex-premier ministre, ainsi qu'un bon nombre de nos responsables et de nos civils, quelque 17 000 Iraniens en tout. Plus loin dans ses propos, le leader de la révolution islamique a souligné son même gouvernement français a apporté le plus grand soutien à un dictateur aussi sanguinaire que Saddam quand il a déclenché sa guerre contre l'Iran. À vrai dire, le soutien apporté à la sauvagerie culturelle à l'acte criminel de ce caricaturiste Charlie Hebdo. Et l'autre facette de cette politique française de soutien aux Munafiqin Mujahidin du peuple et à Saddam, ajoutez à cela le comportement de ce même gouvernement à l'encontre des Français tout au long des samedis de protestation des Gilets jaunes, et dire que ce gouvernement ose prétendre à la liberté d'expression et au respect des droits de l'homme. La civilisation occidentale telle que pratiquée par ses dirigeants est une civilisation sauvage qui n'a aucune pitié pour ses propres populations, et les images de cette sauvagerie, vous les voyez tous les jours au terme des siècles de prétentions droits de l'humaniste. L'honorable Ayatollah Khamenei s'est ensuite félicité de l'union sacrée que l'affaire des caricatures a créée au sein du monde de l'islam et souligné, aujourd'hui plus que jamais se manifeste dans toute sa grandeur, l'importance de l'initiative de l'imam Khomeini de baptiser les deux dates de l'anniversaire du prophète de l'islam, selon la version sunnite et chiite, semaine de l'unité. Les événements qui se succèdent de nos jours, les divergences produites au sein du monde de l'islam, l'islam prouve à quel point cette unité intermusulmane est vitale. C'est un précieux paramètre qui, s'il existait profondément et de façon impérissable, aucun des fléaux auxquels nous nous confrontons aujourd'hui n'aurait existé. Les ennemis de l'islam ont tenté de liquider la cause palestinienne par cet acte éminemment perfide qu'est la normalisation. Ils ont vendu les droits historiques du peuple palestinien. Or, la cause palestinienne n'est pas périssable. La Palestine deviendra la Palestine et l'entité factice sioniste disparaîtra. Pour dire la vérité telle qu'elle est, l'unité inter-islamique n'a pas été prise en compte à sa juste valeur. Mais l'ennemi en a très bien compris l'importance et l'enjeu, puisque cette unité pourrait amoindrir son influence au sein de l'humain islamique. Cet ennemi a tout fait pour contrer cette unité, a créé des centres, des instituts pour prêcher la désunion, a poursuivi le leader. Le leader de la révolution islamique a évoqué ensuite la présidentielle américaine et le conflit du Haut-Karabakh qui se déroule aux portes de l'Iran et qui a l'air d'une tentative visant à créer un foyer permanent de terrorisme près des frontières iraniennes. La politique iranienne à l'égard des États-Unis est claire, précise et calculée. C'est une politique qui ne change pas si la direction change aux États-Unis. Qui sera le prochain président des USA, cela n'influera en rien sur notre politique. Il a dit bien souvent, l'Iran devra se renforcer, notre nation, notre pays devront développer leurs capacités et c'est à ce prix qu'ils vaincront l'ennemi. Et qu'on se le dise, notre nation a superbement résisté. Dans la dernière partie de son discours, le leader de la révolution islamique a abordé le conflit au Kosaque Sud. La guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est bien amère et menace la sécurité de toute la région. Les terres conquises par l'Arménie devraient revenir à l'Azerbaïdjan et les Arméniens devront pouvoir vivre en sécurité dans ces terres. Et surtout que les terroristes ne s'implantent pas près de nos frontières, car notre action sera radicale dès que nous sentons le moindre danger.
N'hésitez pas à suivre nos émissions sur notre site http://parstoday.com/fr. Pars Today est actif essentiellement sur la toile et les réseaux sociaux, mais il diffuse son contenu en ondes courtes ou encore via des applications mobiles. Les toutes dernières évolutions politiques au Moyen-Orient, l'euro axial qui joue l'Iran en qualité d'une puissance régionale et pays à la fois sûr et prospère sont largement traités à travers les articles et les émissions présentes sur le site Pars Today, ce qui en amplifie l'importance dans la sphère médiatique régionale. Le service français de Pars Today utilise divers médias pour présenter ses productions politiques, culturelles et religieuses. Son objectif n'est que de permettre aux internautes de voir plus clair dans un monde où les médias mainstream manipulent l'opinion. Les locuteurs français pourront suivre l'actualité iranienne, moyen-orientale et africaine et francophone sur Pars Today à l'adresse suivante http://parstoday.com/fr.
Ici, le Moyen-Orient.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Pourquoi l'offense au prophète de l'islam est un acte permis, mais douter au sujet de l'Holocauste est un crime? Suite aux récentes offenses ignominieuses faites en France à l'égard du grand prophète de l'islam et au soutien complet qu'ont réservé le président et le gouvernement de la France à ces actes malveillants, et son nom de la liberté d'expression, et aussi en raison du rôle de ce gouvernement dans la propagation de l'islamophobie, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique, a émis un message à l'adresse des jeunes de France en y posant quelques questions importantes. En voici le message du guide suprême de la révolution islamique. Au nom de Dieu, jeunes de France, posez cette question à votre président. Pourquoi il soutient l'offense au prophète de Dieu tout en la considérant comme la liberté d'expression? Est-ce que la liberté d'expression veut dire insulter et offenser, et ce, les personnalités éminentes et sacrées? Cet acte stupide n'est-il pas une offense à la conscience d'une nation qu'il a élue comme son président? La question suivante est, pourquoi alors douter au sujet de l'Holocauste est considéré comme un crime? Et pourquoi celui qui écrit sur ce sujet doit être condamné à la prison tandis que l'offense au prophète est un acte permis? Seyyed Ali Khamenei, le 28 octobre 2020.
L'Iran se focalisera sur les actions de la future administration américaine, non pas sur le candidat. L'Iran a affirmé lundi 2 novembre, à la veille de l'élection présidentielle aux États-Unis, qu'il focalisera son attention sur les actions de la prochaine administration plutôt que sur la personne du futur président. Notre position est claire. Nous surveillons l'approche de la nouvelle administration américaine, quel que soit le parti dont elle sera issue, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Saïd Khatibzadeh à des journalistes. Puisque le résultat de l'élection lui-même, nous focaliserons notre attention sur les actions du prochain président, a-t-il dit. L'Iran réclame un retour à l'accord nucléaire, la levée des sanctions et des compensations pour les dommages causés. Il est clair que les deux parties ont réalisé l'étendue de l'échec de leur politique à l'égard de l'Iran, a fait savoir le porte-parole de la diplomatie iranienne. Khadji discute avec Pedersen des moyens de résoudre la crise en Syrie. Le haut assistant du ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques spéciales, Ali Asrar Khadji, a discuté avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Syrie, Geir Pedersen, des moyens de résoudre la crise en Syrie. Au cours de la réunion, M. Khadji a souligné l'importance de trouver des solutions au retour des Syriens déplacés en tant que problème humanitaire dont les résultats positifs contribuent à pousser de l'avant la solution politique de la crise en Syrie. Il a appelé la communauté internationale à participer activement à la conférence internationale sur les réfugiés prévue le mois courant à Damas. Les progrès réalisés en ce qui concerne la tenue de la prochaine réunion du comité chargé de discuter de la Constitution ont été abordés par les deux parties qui ont émis l'espoir que la réunion se tiendra dans un proche avenir. Pour sa part, M. Pedersen a fait un exposé sur les résultats de sa récente tournée dans un certain nombre de pays dans la région. Marie Baljauf, nouvelle mauvaise surprise des forces de la coalition. Les troupes de la coalition de guerre saoudienne ont commencé leurs attaques contre les combattants yéménites depuis les zones frontalières communes au nord de la province de Marib, surtout les hauteurs d'Al-Alam Abiyaz, a déclaré une source sur le terrain. Des éléments affiliés à la coalition s'en sont pris à la région de Nazouat, au sud de la région de Rabal-Shaaf, mais les combattants yéménites déployés sur les lignes de confrontation dans la région d'Al-Maïta se sont immédiatement aperçus des agissements des mercenaires saoudiens et, dans une réaction préventive, ont placé des pièges explosifs sur le passage des forces ennemies. Précise la source, ajoutant que les nouvelles attaques de la coalition sud de la province d'Al-Jaouf sont une reproduction de l'échec du récent scénario de la coalition dans les zones centrales de la région de Rob al-Shaaf. Plusieurs mercenaires de la coalition ont été tués ou blessés lorsque leur convoi s'est heurté au piège explosif des forces yéménites. Celles-ci ont réussi ainsi leur opération d'embuscade avec vitesse et précision, ajoute la source, précisant: un général de brigade et un colonel de la coalition saoudienne ont été tués et au moins 25 autres personnes, dont certains hauts commandants de la coalition, ont été blessés au cours de cette opération. Les forces de l'armée et d'Ansar Allah du Yémen sont dans un état de parfaite disposition sur toutes les lignes de confrontation dans les deux provinces de Marib et d'Al-Jaouf. Les forces armées yéménites ont ainsi mis échec au plan des forces de la coalition qui cherchaient à occuper un autre morceau de terrain au sud-ouest de Rob al-Shaaf afin de parvenir aux régions montagneuses d'Al-Arar, d'Al-Daïza, d'Al-Dahlat et de Sahara. Des rapports en provenance du nord de la province de Marib disent que les combattants yéménites continuent leurs efforts afin de nettoyer des zones de l'est et du sud-est de la base stratégique de Mas, dernier fief des forces de la coalition à l'ouest de la province de Marib. Ce camp militaire se situe entre la ville de Marib sur l'axe de l'est et la ville de Sanaa sur l'axe de l'ouest. les forces armées yéménites sont pour l'instant déployées à seulement 3 km du camp militaire Maas, ajoutent les sources sur le terrain. Al-Nujaba s'est opposé au Royaume-Uni. Le secrétaire général adjoint du mouvement Al-Nujaba, Nasr al-Shamari, s'est opposé aux efforts visant à prolonger le contrat de la société britannique de services de navigation Serco en Irak. Al-Shamari a écrit dans un tweet « Nous nous opposerons constamment aux efforts visant à prolonger le contrat de la société privée Serco qui contrôle l'espace aérien irakien. » En Irak, il y a du personnel national formé, qualifié et prêt à l'emploi. Et nous n'avons pas besoin d'étrangers pour contrôler l'espace aérien du pays, a dit le responsable d'Al-Nujaba. La question du renouvellement du contrat signifie, affirme Al-Shamari, la légitimité de l'occupation britannique à long terme et c'est ce que nous ne le permettrons jamais. La société britannique Serco a pour mission de donner de vastes services dans le domaine sécuritaire, militaire, du transport, de la logistique, de la gestion des centres de détention, des prisons et des écoles, et en même temps des contrats en tant qu'opérateur dans plusieurs métros et aéroports à travers le monde. Un certain nombre d'experts irakiens du contrôle du trafic aérien ont écrit il y a 2 mois une lettre ouverte au ministre du Transport, l'appelant à mettre fin à la domination de la compagnie britannique sur l'espace aérien, soulignant que le prolongement du contrat mentionné imposerait des frais gigantesques à l'économie du pays, continuerait d'opérer au prix coûtant, mais que le pays lui-même disposait d'une force capable de fournir des services de navigation. Deuxième accident de l'hélicoptère d'Aviv Kojavi en 6 mois. Pour la deuxième fois en 6 mois, un hélicoptère transportant le chef d'état-major de l'armée israélienne a effectué un atterrissage d'urgence. Un hélicoptère Black Hawk UH-60A transportant le général Aviv Kojavi a effectué un atterrissage d'urgence dimanche 1er novembre dans l'après-midi après avoir subi un dysfonctionnement technique de son moteur. L'incident n'a fait aucune victime et une enquête sera ouverte à ce propos, selon le porte-parole de l'armée d'occupation israélienne. Le 8 juillet dernier, l'hélicoptère transportant Aviv Kojavi a failli s'écraser lorsqu'il a décollé de la Knesset en direction de la base aérienne militaire de Tel Naf et que les 2 moteurs ont été brusquement coupés. Le dysfonctionnement s'est produit immédiatement après le décollage de l'hélicoptère Black Hawk. Les pilotes ont réussi à réactiver le moteur lorsque l'hélicoptère n'était qu'à 30 mètres du sol.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence. Le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 20 à 25 du chapitre 38 du Noble Coran, la Sainte Sourate Sa'd. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui.
«
notre précédent programme, nous avons lu ensemble les versets de la sainte sourate Sad, qui relataient que les païens de la Mecque n'étaient pas les premiers à nier la mission de leur prophète. Avant eux, d'autres peuples s'étaient rebellés et niaient leur prophète, comme le peuple de Noé, le peuple Ad, ou le pharaon à l'époque du vénéré Moïse, béni soit-il, le peuple de Lot et les autres qui ont démenti leur messager. À ces peuples rebelles, Dieu le Très-Haut a réservé de durs châtiments. Quand le temps arrivait pour châtier ces peuples de pécheurs et de mécréants, la colère du Seigneur les frappait d'un seul coup. Mais les criminels s'obstinaient encore dans leur égarement, et ils se moquaient en prétendant que si Dieu voulait les châtier, il devrait hâter le châtiment et ne pas attendre leur trépas vers l'autre monde. Dieu s'adressa à son noble messager pour lui dire d'être endurant et patient devant les railleries et les mauvais actes des païens. Dieu lui dit de se rappeler du vénéré David, béni soit-il, à qui Dieu donna la puissance de régner sur la terre et à qui Dieu fit soumettre les montagnes, les oiseaux et toutes les populations humaines. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord le verset 20 de la sainte sourate Sad. Puis nous vous en donnerons la traduction.
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
Et nous renforçâmes son royaume et donnâmes à David les sagesses et la faculté de bien juger. Dans ce verset de la sainte sourate Sad, Dieu dit qu'il donna au vénéré David, béni soit-il, la sagesse et la faculté de bien juger. Cela signifie que le vénéré David, béni soit-il, compta parmi les prophètes auxquels le Seigneur donna la mission double de gouverneur et d'établir la justice. C'est un exemple coranique de la compatibilité entre la religion et l'État. Le vénéré David, béni soit-il, ne fut pas chargé uniquement d'enseigner la loi divine aux fidèles, mais de les appliquer en personne. Voici maintenant les versets 21 à 25 de la sainte sourate Sad.
إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما
فما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
Était-elle parvenue la nouvelle des disputeurs quand ils grimpèrent au mur du sanctuaire? Quand ils entrèrent auprès de David, il en fut effrayé. Ils dirent : N'aie pas peur, nous sommes tous deux en dispute. L'un de nous a fait du tort à l'autre. Juge donc en toute équité entre nous. Ne sois pas injuste et guide-nous vers le chemin droit. Celui-ci est mon frère. Il a 99 brebis, tandis que je n'ai qu'une brebis. Il m'a dit, confie-la moi. Et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. David dit, il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Nous lui pardonnâmes. Il aura une place proche de nous et un beau refuge. Ces cinq versets de la Sainte Sourate Sad relatent un épisode de l'histoire du vénéré David, béni soit-il. Cette histoire dit que David était assis seul dans sa chambre, quand deux personnes entrèrent soudainement et sans autorisation. C'étaient deux frères. Un d'eux avait 99 brebis et l'autre avait une seule brebis. Celui qui avait 99 brebis voulait la brebis possédée par son frère parce qu'il pensait qu'il pouvait prendre soin de cette brebis avec ses 99 brebis. Celui qui avait une seule brebis a parlé avec tendresse sur sa position, car il pensait que son frère voulait l'opprimer. David rendit le jugement par piété sans entendre les paroles de l'autre frère. Il dit : Il t'a lésé en te demandant ta brebis pour l'ajouter aux siennes. En réalité, le vénéré David jugea trop vite cette affaire, sans permettre à l'autre frère, accusé par le premier, de se défendre et de justifier son action. Après la sortie de ses deux frères, David comprit que c'était une épreuve de la part du Seigneur. Et alors il comprit qu'il avait rendu le jugement sans faire attention à la position du frère qui avait 99 brebis. David comprit qu'il avait tort et il demanda pardon à son Seigneur. Il tomba prosterné et se repentit. Chers auditeurs, ici s'achève la voie de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 38 du Noble Coran, la Sainte Sourate Sad. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Thank you.